Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, à la une, cette maladie inconnue qui fait rage dans la zone de santé de Panzi dans la province du Kwango. L'ASBL Action Plus appelle la population au calme et à ne pas paniquer, plutôt respecter les règles d'hygiène pour limiter la transmission de cette maladie. Vive tension hier au quartier Regeza, ville de Kalemie. Un présumé voleur a été brûlé vif par la population. Cet acte a provoqué le mécontentement des jeunes. Ces derniers ont saccagé et incendié plusieurs maisons au quartier Regeza. Le chef du quartier condamne ces actes et invite les autorités de la ville à renforcer la sécurité dans son entité. Et puis, désormais, les Congolais pourront avoir accès à leur argent dans n'importe quel terminal d'Equity BCDC, First Bank et Eurobank. C'est la vision de la Banque centrale du Congo BCC pour renforcer les systèmes de paiement en RDC. Pour en parler, nous recevons Olivier Bueno, directeur général de MultiPay Congo. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de la province du Kwango. Nous parlons de cette maladie inconnue qui décime la population dans la zone de santé de Panzi, située dans le territoire de Kasongolunda. L'ASBL Action Plus, une structure de la société civile locale, œuvrant notamment dans le domaine de la santé, appelle la population au calme et à ne pas paniquer. Dans un entretien avec Radio Kapi, Jude Changata, coordonnateur de cette ASBL, invite la population au respect strict des règles d'hygiène édictées par les autorités sanitaires pour limiter la transmission de cette maladie non encore diagnostiquée. Jude Changata est joint par Irène Boma.
Par rapport à la question de la situation sanitaire dans la zone de santé de Panzi, nous, en tant qu'organisation membre de la société civile, nous appelons la population au calme parce que la situation, je sais que le gouvernement est en train de travailler, les experts sont déjà sur le terrain, mais ce que nous exigeons à la population, d'appliquer les mesures de prévention parce que jusque-là, la maladie n'est pas encore connue. C'est pourquoi ils doivent se protéger, laver les mains, appliquer les mesures barrières comme cela est exigé par les professionnels de santé. Donc, que la population ne s'épanouisse pas, mais qu'elle suive seulement les messages des professionnels de santé qui sont en train de passer des jours le lendemain. Ne pas toucher n'importe où, ne pas se saluer à main, et aussi l'hygiène est exigée. Les ministres professionnels de la santé et sa suite sont en train de travailler déjà sur place pour détecter il s'agit de quelle maladie. Souvent, la toux, la fièvre, ainsi que l'anémie. Sans faire même autant de jours, la personne trépasse.
Province du Tanganyika, je vous l'ai dit dans les titres, vive tension hier au quartier Regeza, dans la commune du Lac, ville de Kalemie. Un présumé voleur a été brûlé vif par la population. En représailles, un groupe de jeunes a saccagé et incendié des maisons dans le même quartier. Le chef du quartier condamne cette vindicte populaire et appelle la population au calme. Reportage de Paulin Munanga.
Des témoins rapportent que la victime de la justice populaire est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il a été appréhendé par la population dans la nuit de jeudi à vendredi, qu'il a accusé d'être un voleur et l'a brûlé vif. Cet acte a provoqué une manifestation spontanée dans la matinée de vendredi. Des jeunes mécontents ont saccagé et incendié plusieurs maisons au quartier Regeza, confirme le chef de quartier. Celui-ci condamne ces actes et invite les autorités de la ville à renforcer la sécurité dans sa juridiction. Pour Nathan Mugisho, coordonnateur du mouvement citoyen parlement Debout sans tabou, l'État doit imposer son autorité.
Cette situation risque de nous pousser à déclarer tout haut que nous vivons dans l'absence de l'autorité de l'État. Parce que si il y a déjà l'insécurité accompagnée des actions de justice populaire, là, on regarde qu'est-ce que l'État doit faire en termes de force de représailles.
Signalons que dans la même nuit de jeudi à vendredi, deux maisons ont été visitées par des bandits munis d'armes blanches au quartier Joseph, commune de Lukuga. D'après les coordonnateurs du mouvement citoyen parlement Debout sans tabou, les malfrats ont blessé une personne et emporté plusieurs biens de valeur. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, le premier président de la cour d'appel de cette province vient de boucler une mission d'inspection judiciaire au niveau des juridictions de son ressort. Le constat est plutôt amer. Emmanuel Chama vous dit avoir constaté certaines irrégularités, notamment sur le plan des recettes et gestion des dossiers judiciaires en matière répressive. Il en appelle à l'observance stricte de la loi et des instructions par les parties prenantes. Cette mission a été financée par la section d'appui à la justice de la MONUSCO Bounia, le compte-rendu de Sadiq Aboubakar.
Le premier président de la Cour l'a fait savoir jeudi, lors d'une séance de restitution du résultat de l'inspection menée au sein des juridictions de son ressort. Il affirme avoir constaté des irrégularités en matière d'enregistrement des recettes judiciaires.
Lorsqu'il est renseigné dans un rapport d'une juridiction qu'elle a réalisé X montant comme recettes judiciaires et que nous, lorsqu'on vient en inspection, en rapprochant les montants déclarés aux montants renseignés par les bordereaux de versement à la banque, on trouve une différence.
Ça frise du détournement.
Mais bien entendu.
Le premier président déplore également les multiples renvoie des affaires par les tribunaux en matière répressive, parfois pour des raisons injustifiées.
On trouve que l'affaire a été renvoyée 15 fois, même 20 fois, alors que ce sont des affaires qui touchent l'ordre public. Eh bien, il peut y avoir prescription pendant que le dossier est abandonné au greffe. La conséquence, c'est que quelqu'un qui réellement a commis une infraction va se voir ne plus être poursuivi et la victime n'est pas remise à ses droits aussi dans ces conditions.
Emmanuel Chamavou en appelle à la responsabilité des juges et à la prise de conscience de tous les acteurs intervenant dans les juridictions de son ressort pour changer l'image de la justice en Ituri. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Nord Kivu, la situation humanitaire est préoccupante pour un grand nombre de la population qui vit en déplacement répétitif sur l'axe Pinga-Mutongo-Kibwa dans le territoire de Walikale. C'est le constat fait par le responsable de ARDACO, entendez, Association de réhabilitation pour le développement des activités environnementales et communautaires. Émile Mouombo, qui revient de cette zone, indique que ses habitants manquent de tout alors qu'ils vivent dans un contexte sécuritaire difficile à cause des groupes armés qui s'affrontent régulièrement avec les rebelles du M23. Sifa Maguru.
D'après les responsables de cette organisation locale de développement, depuis octobre dernier, des affrontements entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux ont dégradé considérablement la vie des populations. Ses habitants manquent de nourriture, médicaments et autres besoins vitaux.
La population s'est heurte à des difficultés énormes. Les aides de santé, les centres de santé ne sont pas appuyés. Ils sont à rupture de stock, tels que dans l'aire de santé de Mushimo à Bukonde, Kailenge, Kaseke, Mutongo, Limangi, Luvungi et Kibua. Ils ont fui, ils ont été pillés et ils n'ont pas accès aux champs. Les autres vivent dans des huttes à paille qui sont en train de sointer à cette période de pluie abondante. Ils n'ont pas de casserole, ils n'ont pas de couverture. Il y a des enfants qui commencent à manifester des signes de malnutrition dans cette zone-là puisqu'ils mangent difficilement.
Les déplacés sont concentrés actuellement à l'hôpital général de Pinga, mais aussi vers Kaseke, Mutongo, Kibua et au-delà, ajoute-t-il. Émile Mouombo estime à plus de 50 000 personnes enregistrées dans cette zone très enclavée et difficile à accéder. Sur le plan sécuritaire, il déplore une situation volatile, marqué par des cas de violation des droits de l'homme ainsi que des barrières illégales. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu, dans le territoire de Beni, après l'attaque des rebelles ADF du quartier Tenambo à Oicha la nuit du mardi à mercredi, la société civile de la commune de Mangina exhorte les services de sécurité à étendre leurs efforts de sécurisation vers les villages environnant Oicha. Mungozi Vunyati, président de la société civile de Mangina, dit craindre que ces rebelles ne se dirigent vers son entité, fuyant la pression militaire. Il appelle la population à demeurer vigilante et à dénoncer aux services de sécurité tout mouvement suspect dans la région. Mwongozi Vunyati, joint par Guylaine Kassassia.
Nous émettons en fait notre regret suite à l'attaque de l'EDF au niveau de Bakila Tenambo et à Oicha parce que la population espérait déjà une accalmie et surtout que même disons dans la zone, les agriculteurs commençaient à travailler les champs sans inquiétude. Alors c'est comme ça que à cette occasion, nous interpellons donc les services de sécurité et la population de comprendre dans la semble que le danger est encore là. Et si nous lançons un appel au service de sécurité de fournir des forts et de rechercher l'ennemi afin de prévenir une surprise attaque, par exemple à la commune de Mangina, parce que cette commune n'est pas loin de la zone qui a été attaquée. Au niveau de la population, nous devons tailler une grande vigilance pour que cela peut nous aider à alerter au moment où nous constatons que ça ne va pas dans notre zone.
Autre nouvelle, la mise en place d'un cadre permanent de concertation entre la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, CIAVA en sigle, et les partenaires engagés dans le processus de la justice transitionnelle en RDC pour une veille efficace dans la réparation des victimes, c'est l'une des résolutions d'un dialogue organisé par la CIAVA avec l'écosystème national et international, dialogue clôturé jeudi à Kinshasa. L'un des objectifs de ces assises de deux jours était notamment de réfléchir sur les différents textes qui feront l'objet de l'adoption au niveau du gouvernement et du Parlement sur la justice transitionnelle pour avoir un cadre complet de justice transitionnelle en vue d'une bonne réparation des victimes en RDC. On écoute à ce sujet Blaise Ndombe, coordonnateur exécutif adjoint de la CIAVA, dans ses propos recueillis par Jody Daniel Kachama.
Ces dialogues nous a permis aussi de connaître quels sont les acteurs qui interviennent, de connaître quelles sont les difficultés auxquelles eux sont confrontés, parce que nous entrons sur un chemin où d'autres ont déjà commencé à le fréquenter. Et donc ça nous a permis de maîtriser un peu le terrain et surtout de mettre en place cette coordination, ce cadre de concertation qui permettent dans l'avenir de pouvoir décider ensemble et de marcher ensemble sans qu'il y ait des initiatives qui contrecarrent le travail des uns des autres. Et il y a d'abord cette nécessité de la coordination au niveau de l'implémentation, parce qu'ils ont fait part du fait qu'il y a plusieurs services effectivement qui existent au niveau de l'État, qui travaillent sur le même mécanisme ou sur le même terrain. Et donc, les partenaires ont sollicité à ce qu'il y ait une certaine coordination pour que l'action du gouvernement soit une action qui est menée en synergie, qu'il n'y ait pas de dispersion d'efforts. Deuxième recommandation, c'était un certain nombre de difficultés qui ont été relevées, étant donné que dans le cadre de l'implémentation de la justice transitionnelle, il y a plusieurs autres obstacles, parce qu'il y a un travail qui avait déjà commencé à l'époque, mais qui n'avait pas abouti. Et donc, ces échanges ont permis à ce qu'ils fassent des recommandations par rapport aux causes qui ont fait en sorte que le travail qui avait été fait avant n'ait pas abouti et que sur base de ces recommandations, nous puissions voir comment améliorer le travail qui est en train d'être fait pour que demain nous ayons un résultat que tous attendons.
Dans l'actualité aussi, le parc Président Mobutu de la Sélé, patrimoine historique, emblématique et écologique pour la RDC, fait aujourd'hui l'objet d'une spoliation criminelle et sauvage, regret et désapprobation de Madame Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement et Développement Durable, regret aussi de la direction générale de l'ICCN exprimée jeudi 5 décembre dans ce parc lors de la cérémonie marquant la commémoration de la Journée nationale de l'arbre. Billy Van Lutumba a visité ce parc. Il nous en parle dans ce reportage.
Vaste d'environ 3500 hectares à sa création, le parc Président Mobutu de Lancélé ne compte plus que 50 hectares de superficie à ce jour. Théophile Ngombo DGA de l'ICCN.
Les autorités de la RDC, qui devraient être premières pour faire respecter l'ordonnance du chef de l'État, s'est lancé dans la spoliation du parc. Nous demandons de porter nos cris et inscrire dans le débat du Conseil des ministres la question de spoliation du parc Président Mobutu.
Jadis fierté des Congolais à travers les multiples services écosystémiques systémique et touristique qu'il offrait, le parc de Lancélé a perdu près de 90% de sa superficie et de tous les efforts de sa restauration. Coup de gueule de Vazaïba.
En date du 5 décembre 2024, nous n'avons plus qu'une cinquantaine d'hectares. À ceux qui ont spolié, une mise en garde de plier bagages parce que nul n'est au-dessus de la loi. Tout ce que vous avez fait comme bâtisse, la loi foncière est claire et précise. Qui construit chez autrui, construit pour autrui. Le ministère de la Justice, et là vous allez vous défendre. Amenez les documents, les titres qui vous donnent le droit d'être là, dans un site qui est couvert par une ordonnance présidentielle.
Pour réellement contraindre les spoliateurs, Bazaïba s'engage à obtenir un ralliement de tous ses collègues ministres sectoriels lors des réunions des conseils des ministres, ainsi que celui du chef de l'État qui tient à maintenir la RDC à sa place de pays solution en matière de biodiversité.
Rendons-nous dans la province du Maniema. Les 112 perroquets gris d'Afrique interceptés en Turquie sur les 309 répertoriés sont arrivés à Kindu depuis hier. À l'aéroport national de Kindu, ces espèces totalement protégées ont été réceptionnées par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, avec ses partenaires en présence des autorités provinciales. Dans son adresse, le chef de site de l'ICCN Kindu, tout en remerciant le gouvernement turc, qualifie ce trafic de crime environnemental. Radar Nishuli rappelle à toute la communauté que la capture et la commercialisation des perroquets restent interdites. Il explique la complexité de cette opération au micro de Florence Kizalunga.
Les perroquets ont été chippés à Kindu, transportés jusqu'en Turquie. Et nous, on a suivi. Le Congo est membre d'Interpol, c'est-à-dire vous pouvez échapper au contrôle au Congo, mais vous n'échapperez pas au contrôle d'Interpol. Et les documents qui ont fait voyager les perroquets ont été interceptés. Et une fois interceptés, il y a eu des demandes qui sont venues pour nous poser la question, est-ce qu'il y a eu des autorisations légales qui ont accompagné le perroquet? Et voilà, la réponse était non. Et voilà, Interpol, avec CITES Turquie ont arrêté les perroquets et ils ont été rapatriés chez nous en RDC et plus principalement à Kindu. Il y en avait plus de 300 qui sont partis, maintenant nous avons 112 qui sont revenus. Puisque vous savez, les conditions dans lesquelles vous les transportez font parfois qu'ils meurent en cours de route, tout ça. Alors, si on va se complaire chaque fois de piller le pays pour aller enrichir des pays dont on ne connaît même pas les habitants, ça fait mal. Nous allons remettre ça dans la forêt, mais il y a des mesures qui vont se mettre autour de cette activité-là. Nous sommes dans un pays de droit et la loi va s'appliquer.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le chef de la junte, Ibrahim Traoré, dissout le gouvernement. Le capitaine Traoré, qui dirige la junte militaire au pouvoir à Ouagadougou, a décidé de se séparer de son premier ministre et de dissoudre le gouvernement à la tête duquel il s'est trouvé. Depuis sa nomination en octobre 2022, Apollinaire Kielem avait été reconduit à deux reprises à la primature. Les raisons de son limogeage n'ont pas été précisées. Et au Ghana, ce samedi 7 décembre, près de 18 millions des quelques 34 millions des habitants du Ghana sont appelés aux urnes pour élire leur président et leurs parlementaires, un double scrutin dans un climat de crise économique et de tensions politiques et sociales.
L'invité.
MultiPay Congo connecte sa solution MultiPay au switch national permettant le traitement des transactions de la carte Monsolo, une carte interopérable qui va désormais donner la possibilité aux Congolais d'avoir accès à leur argent dans n'importe quel terminal d'Equity BCDC, First Bank et Robank. Cette réalisation s'inscrit dans la vision de la Banque centrale du Congo BCC visant à renforcer l'interopérabilité des systèmes de paiement en RDC. Pour en parler, nous recevons le directeur général de MultiPay Congo, Olivier Bueno, s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Monsieur Olivier Bueno, bonjour.
Bonjour.
MultiPay Congo connecte sa solution MultiPay aux suites monétiques nationales permettant le traitement des transactions de la carte Monsolo. Quels défis avez-vous rencontrés lors de cette intégration et comment améliore-t-elle l'écosystème financier en RDC?
Merci pour la question. Alors, l'intégration de la solution MultiPay au switch monétique national a présenté plusieurs défis, notamment la coordination avec diverses institutions financières pour pouvoir assurer une compatibilité technique et opérationnelle, la mise en place d'infrastructures nécessaires pour garantir une communication fluide entre les systèmes et la conformité au protocole de sécurité strict pour les transactions, mais aussi la navigation dans des exigences réglementaires plutôt complexes. Cependant, cette intégration améliore considérablement l'écosystème financier en RDC, permettant une interopérabilité entre les banques membres du réseau MultiPay et les autres institutions financières connectées au switch monétique national, ce qui facilite les transactions à travers les différents canaux. Donc, nous pouvons dire que cette intégration stimule aujourd'hui l'innovation, améliore l'efficacité globale de l'industrie des paiements et surtout encourage une concurrence saine, ce qui va permettre d'offrir aux consommateurs de meilleures options et rendre les services financiers beaucoup plus accessibles et abordables.
Étant donné les problèmes persistants d'inclusion financière dans les zones éloignées, comment MultiPay Congo prévoit-il Prévoit-il de s'assurer que les avantages de cette intégration atteignent les populations sous-bancarisées?
Très bonne question. Alors, Multipay Congo prévoit de continuer à étendre son réseau et de collaborer étroitement avec le gestionnaire du switch monétique national pour atteindre les zones sous-bancarisées. Nous pensons qu'en améliorant l'infrastructure de paiement et en offrant des services financiers accessibles, nous arriverons à inclure davantage de personnes dans le système financier formel. Et cela passera par des améliorations de la connectivité, l'accessibilité des services de paiement pour permettre aux utilisateurs de profiter d'une expérience financière beaucoup plus fluide et sécurisée, même dans les régions sous-bancarisées. Ces efforts seront soutenus par des initiatives de sensibilisation et d'éducation financière, en partenariat bien sûr avec le régulateur pour garantir que les populations éloignées puissent bénéficier pleinement de nos services. Et nous sommes convaincus que ce partenariat stratégique avec le régulateur et les gestionnaires du switch monétique national est essentiel pour promouvoir l'inclusion financière et le développement économique en RDC.
Quelles innovations ou expansions futures pouvons-nous attendre de Multipay Congo pour soutenir davantage la vision d'un écosystème de paiement unifié et accessible en RDC?
Nous prévoyons de lancer de nouveaux services à valeur ajoutée, tels que des solutions de paiement mobile et des plateformes de e-commerce, pour pouvoir répondre aux besoins diversifiés de la population. Nous pouvons citer parmi ces services l'application Multipay Agent, par exemple, téléchargeable sur téléphone ou terminaux de paiement électronique, qui agrège plusieurs services financiers pour atteindre les populations insuffisamment desservies et non bancarisées, principalement dans les zones rurales. Cela permettra aux petites entreprises locales et aux particuliers d'agir en tant qu'agents, offrant des services financiers essentiels directement à la population via des points de vente et le canal du mobile. Donc, Multipay Congo continuera à investir dans des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité et la sécurité de ses services, avec pour objectif de créer un écosystème de paiement inclusif qui soutient la croissance économique et l'inclusion financière en RDC.
Monsieur Olivier Bueno, je rappelle que vous êtes le directeur général de Multipay Congo. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.